بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نعم يا الله عز وجل qui nous a donné la possibilité à partir de ce mardi inchallah de consacrer 30 minutes de notre temps à parler, Inch'Allah, des signes de Qiyamah. Inch'Allah, un mardi sur deux, il y aura un mardi, il y aura les signes de Qiyamah, et un mardi, Muftisab va parler de, va traiter du tafsir du Coran. Maintenant, Muftisab va voir s'il commence par le Fatiha ou depuis Amma, et Mufti Luqman, Inch'Allah, il va voir ça, Inch'Allah. Donc, un mardi sur deux, on aura l'occasion de parler de Ashratu Sa'a, des signes de Qiyamah. Il faut savoir que parler des signes de Qiyamah, ce n'est pas quelque chose de simple. On a souvent des idées préconçues, ou alors parfois un minimum de connaissances sur les signes de Qiyamah. La plupart d'entre nous, on a déjà entendu parler de Imam Mahdi. La plupart d'entre nous, on a déjà entendu parler de Dajjal. On connaît à peu près la description de Dajjal, qu'il a un œil souvent. Ça, c'est des stéréotypes que Imam Mahdi arrive. On est dans telle difficulté, la Ummah connaît de tels problèmes que la seule personne qui peut nous aider, c'est Imam Mahdi. Donc, la conséquence de ce genre de parole, c'est quoi? C'est beaucoup de personnes ne veulent plus agir. Lorsqu'il y a des problèmes, la communauté connaît des problèmes, on se dit qu'il n'y a pas besoin de trouver une solution, de toute façon, Imam Mahdi va arriver. Et il va régler tout ça. Donc, on tombe dans le fatalisme. À partir du moment où on pense qu'Imam Mahdi va venir d'ici un mois ou deux mois, ou un an ou deux ans, à partir du moment où certaines personnes ont prétendu avoir fait moulaqat Imam Mahdi tel endroit dans le Hajj ou alors dans tel endroit, cela a un effet néfaste. C'est-à-dire qu'on n'aura pas envie de, on n'aura pas envie d'apporter quelque chose, on n'a pas envie d'apporter notre contribution à la Ummah à partir du moment où on se suffit sur le fait qu'Imam Mahdi va arriver. Également concernant Dajjal, le nombre d'idées préconçues. Beaucoup de gens pensent que Dajjal c'est un cyclope, c'est une personne qui a un œil au milieu du front. Là aussi, Inch'Allah, ce sont des choses à voir. La description physique de Dajjal, la description physique des parents de Dajjal, tout ça c'est des mawdou'a intéressants à voir. Également, concernant la venue de Hazrat Isa alayhi salam, nous avons des idées souvent préconçues, ou alors parfois c'est vrai, des connaissances de base sur le retour de Isa alayhi salam. En général, sur Isa alayhi salam, on n'a pas raconté trop d'histoires. Mais celui qui détient le premier prix, c'est Gog et Magog. Alors, Ya'juj ou Ma'juj, on les a collés des grandes oreilles, on les a collés des trompes. On les a décrits comme, je ne sais pas, comme des barbes à papa ou je ne sais pas quel genre de créature, si c'est des bonnes générations, ce genre de dessins animés. On finit par se dire que Ya'juj et Ma'juj sont des petits monstres. Alors il est intéressant de voir la lumière des hadiths et des tafsirs du Coran qui sont véritablement Gog et Magog. En comprenant les Ashrat al-Sa'a, les signes de Qiyamah uniquement à partir des tafsirs des ayats du Coran et des hadiths thabit, ou alors hassan, ou alors da'if ma'a mutaba'a du prophète alayhi salatu wassalam, on aura vraiment, Inch'Allah, une véritable. On va se faire une idée de base. On aura le ilm nécessaire concernant les signes de Qiyamah. Il faut savoir que ce programme, Alhamdulillah, Allah nous a donné le tawfiq de le faire à Montreuil il y a 2 ans et demi. Et juste pour traiter des signes de Qiyamah, Alhamdulillah, ça a pris à peu près 1 an et demi. À raison d'une fois par semaine, un mardi par semaine. Donc là, on va démarrer avec un mardi tous les deux semaines. Inch'Allah, le but c'est quoi? Le but c'est pas d'écouter ce genre de paroles en se disant que bon, on va écouter des histoires. On va pas écouter l'histoire d'Imam Mahdi, l'histoire de Isa alayhi salam, de Ya'juj et Ma'juj, comme on écoute Mille et une nuits, ou alors comme on écoute des contes de Grimm ou autre chose. On doit avoir yakin que les choses qu'on va dire, c'est haq. De un, c'est la vérité. Et de deux, ces paroles, on ne les raconte pas parce que tel Mawlana a dit. On ne les raconte pas parce qu'on a entendu tel alim dire. Non, on les raconte qu'à partir du moment où on a vu ces paroles dans les tafsirs d'Ibn Kathir, de Qurtubi ou Al-Baydawi, c'est-à-dire des livres reconnus par Ijma' al-Umma, ou alors que notre prophète alayhi salatu wassalam l'a prononcé de sa propre bouche mubarak, où les sahaba radiallahu anhu majma'in l'ont dit. Et c'est ça qui fait la force de notre din. Et c'est ça qui fait le côté concret de l'islam, c'est que tout ce qu'on dit dans le din, que ce soit les masla, que ce soit les fatwas, que ce soit le tafsir, les charts d'ahadith, n'importe quel domaine de la religion, c'est fondé. Ça doit être fondé. N'importe quelle parole qu'on rapporte de la religion, on ne peut pas se permettre de dire que dans un majlis tel bouzouk a dit, donc on le répète. La wallah. Rassam dit un hadith, man, que celui qui raconte des choses contraires
à la vérité sur le prophète sallam que cette personne falyatabawwa maq'adahu minan nar, que cette personne prépare dès maintenant sa place de le feu de l'enfer. Mise en garde. Il y a des péchés que parfois on peut faire, mais il n'y a pas de péché pour lesquels il y a eu autant de mise en garde, aussi sévère que sur le fait de dire quelque chose, que d'attribuer une parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne l'aurait pas dit. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, là on parle des hadiths. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu dit que il n'osait jamais commenter un ayat du Coran. Très rare que Abu Bakr radiallahu anhu il s'aventure en guillemets à commenter un ayat du Coran. Et c'était quoi la raison? Il dit que, en ce sens, quel ciel, quel arbre va me couvrir, qu'est-ce qui va me protéger si j'ai dit quelque chose contraire au Coran? Qui me protégera contre l'adab d'Allah? Également, quand on regarde les Moussannafat, qui sont les Sahaba qui ont rapporté le plus de hadith, et on regarde un des Sahaba qui a rapporté le moins de hadith, c'était qui? Abu Bakr as-Siddiq. Les ulama, rahimahullah, disent que Abu Bakr était occupé avec le khilafa, avec la politique du monde musulman, mais ce n'était pas la seule raison. C'est également que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu avait une telle crainte qu'il raconte quelque chose que le Prophète aurait dit et qu'il se trompe dans les termes. Et que de génération en génération, on raconte quelque chose erroné du Prophète et que ça aurait été lui la source. Tellement les Sahaba radiallahu anhu majma'in, ils prenaient précaution lorsqu'ils disaient quelque chose, lorsqu'ils disaient que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils savaient dans quoi ils s'engageaient. Donc, Inch'Allah, notre manhaj, notre manière de procéder, ce sera de traiter des signes de Qiyamah. Et pourquoi on explique tout ce muqaddimah, toute cette introduction? Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues à propos des signes de Qiyamah. Et beaucoup de livres ont été écrits. Sur les signes de Qiyamah. Certains livres apportent des informations correctes. Parfois, c'est un peu fantaisiste. Parfois, ça se base sur les hadiths maudours, ou alors sur les israéliens, les récits rapportés des Banu Israël. Nous, on va se baser que sur le Coran, les tafsirs du Coran et sur les hadiths du prophète Muhammad, Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alors, parler des signes de Qiyamah. Certaines personnes peuvent penser, pas à la Réunion, c'est dans certains pays où il y a un certain degré de connaissance religieuse, certaines personnes font la réflexion, quel est l'intérêt de parler des signes de Qiyamah, alors qu'il y a beaucoup de choses plus importantes. On peut se dire que, de nos jours, il y a des jeunes qui sont dans la drogue, il y a des jeunes qui sont dans l'alcool, il y a des filles qui se marient avec d'autres personnes qui n'ont pas iman. C'est des choses graves. On devrait s'occuper de ces cas-là et ne pas s'aventurer dans les signes de Qiyamah. Mais si on adopte cette philosophie, on se dit qu'on va parler que de ces choses-là, ben on ne parle plus de massa, on ne parle plus de fatwa, on ne fait plus de tafsir, on ne commente plus les hadiths. Et ça, c'est un piège de shaitan. Parce qu'il faut savoir que parler des signes de Qiyamah, c'est développer une branche de iman. Chaque musulman croit en six choses. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhiri wa al-qadri khayrihi wa sharrihi minallahi ta'ala et puis al-ba'thi ba'da al-maut, la résurrection après la mort, ça fait partie de l'iman billahi wa liyumil akhiri. Le fait d'avoir iman sur les signes de Qiyamah, cela renforce notre iman billahi akhiri. Et à partir du moment où le musulman renforce un des arcanes de l'iman, une des branches de la foi, son iman est renforcé. Alors on va voir, avant de commencer, un i'tirad, une personne qui avait dit dans le kitab, le cheikh Souleyman al-Ashqar, rahimahullah, wa hafidahullah, il est toujours vivant, a dit certaines personnes avaient fait la remarque, Moana, pourquoi parler des signes de Qiyamah alors qu'il y a beaucoup d'autres priorités dans notre communauté? Alors Moana, il a répondu que premièrement, ça fait partie des samim ud-din, ça fait partie des choses essentielles de la religion, comme on vient de l'expliquer, ça fait partie des arkan ul-iman. Également, cela renforce l'iman bil-ghayb. Lorsqu'on parle de Dajjal, de Al-Mahdi, Isa alayhi salam, Ya'juj, Ma'juj, cela renforce la foi en l'invisible. C'est ce qu'on appelle l'iman bil-ghayb. Et le premier sifat qu'Allah Ta'ala, le premier sifat qui décrit les musulmans de le Coran, c'est quoi dans Alif Lam Mim? ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين c'est pas الذين يصلون أو الذين يحجون أو يصومون non الذين يؤمنون بالغيب. Le premier sifat du musulman cité par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, c'est le musulman, c'est qui? C'est celui qui croit en l'invisible. À partir du moment, les ulama expliquent qu'à partir du moment où on est capable de croire au retour d'une personne après, je dis 2000 ans, parce que ça fait 2000 ans que Isa al-Islam nous a quittés, ou après 2000 ans, ou alors après 2500 années, ou après 3000 ans, on ne sait pas quand il va revenir. Si on est capable de croire ce genre d'événement, si on est capable de croire en la venue d'une créature qui existe déjà, et à qui Allah Ta'ala donnera la possibilité de couper une personne en deux, de marcher entre les deux parties de la personne, et l'expression est adéquate, de recoller les morceaux, de redonner vie à cette personne. Si on est capable de croire ce genre d'événement, si on est capable de croire que, en ce moment, sur la surface de la Terre, il existe en deux montagnes d'une certaine région, une nation qui existe, qui existe depuis Dhul Qarnayn, et qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux que l'être humain, qui est beaucoup plus nombreux que la race humaine, qui sont donc des milliards et des milliards qui existent déjà, que les satellites n'ont pas détecté par l'ordre d'Allah. Si on est capable de croire des événements qui ont l'air yani, aussi incroyables, voyez, si on est capable de croire ces événements qui font partie du iman ou bil ghaib, de la foi en l'invisible, donc croire à ce qu'on appelle l'iman ou bil wa'di wal wa'i, croire aux récompenses qu'Allah a promis aux musulmans, et croire aux mises en garde, au azab qu'Allah ta'ala a annoncé pour celui qui n'a pas iman ou qui désobéit Allah, croire en ces choses plus, en guillemets, accessibles, sera plus facile. Si on est capable de croire à la venue de Isa, de Mahdi, etc., croire aux récompenses de la salade, croire au azab de la tombe concernant la personne qui délaisse la salade, ce genre de choses sera beaucoup plus accessible à notre esprit. Également, Mohamed dit également pourquoi il est important de traiter de ce genre de sujet, parce que beaucoup de personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, sombrent dans le fatalisme. À chaque fois qu'on voit un problème dans le monde musulman, on n'essaie pas d'apporter ce qu'on peut. On ne dit pas qu'il faudrait qu'on change notre akhlaq, ou alors il faudrait que notre mu'amala, notre manière de vivre devienne da'wa, ou alors il faudrait qu'on donne une autre image de notre religion. Non, on se dit qu'il y a tellement de fitna, il y a tellement de problèmes dans le monde que la seule chose qui peut nous venir en aide, c'est Imam Mehdi. Et à partir du moment où on se dit ça, ben on délaisse les efforts. Donc, si on comprend que Imam Mehdi, il ne va pas venir en 2007, ni en 2008, ni en 2009, ni en 2010, Allah seul le sait, mais si on comprend que Imam Mehdi, ça fait partie des Ashraf al-Sa' al-Kubra, des grands signes de Qiyamah, et que la règle veut que tant que les petits signes de Qiyamah, tant que les petits signes de Qiyamah sont nombreux, il y a plus d'une centaine de petits signes de Qiyamah, tant que la totalité des petits signes de Qiyamah ne se sont pas produits, il est impossible qu'un grand signe de Qiyamah ne se produise. Et si on connaît que parmi les petits signes de Qiyamah, il y en a 4 ou 5, pas plus que ça, il y en a 4 ou 5 qui ne se sont pas encore réalisés, alors on comprend bien qu'il est trop tôt pour s'aventurer dans de tels discours de la venue d'Imam Mehdi. Voyez ? Également, la dernière réponse de Mohana, c'est que arrivera une époque où des gens proclameront, des gens diront que c'est moi Imam Mehdi. C'est arrivé, il y a 20 ans ou 25 ans, même à Makkatul Mukarrama, quelqu'un s'est proclamé Mehdi. C'est une des raisons pour laquelle, c'est un peu dommage que même à Haram, à Makkah, à Madinah, lorsqu'elle est khutbah de Jum'ah, lorsqu'elle est bayan, même s'il arrive que le khatib parle des signes de Qiyamah, mais il faut prêter l'oreille, il ne parlera jamais d'Imam Mehdi. Dernière fois, Abdul Mohsen Qasim avait fait un khutbah exceptionnel sur les signes de Qiyamah, les petits comme les grands signes de Qiyamah, il a parlé de tout, sauf de Imam Mehdi. Pourquoi ne pas parler d'Imam Mehdi ? Pour ne pas susciter des vocations. Pour ne pas que quelqu'un se sente devenir Imam Mehdi. Il voit en lui des qualités et il se proclame Imam Mehdi. Donc le fait qu'avant le Qiyamah, il y aura des gens qui vont se proclamer Imam Mehdi, il est important de connaître le sifa de cette personne, l'origine de cette personne et la descendance de cette personne. Également, il y a eu des interprétations assez farfelues. Certaines personnes, ce qu'on appelle, bon, on ne va pas expliquer tout parce que c'est des termes qui n'ont pas été traduits. Il y a certains groupes de personnes qui, lorsqu'ils lisent le Coran, et à chaque fois qu'Allah Ta'ala annonce quelque chose qui a trait à l'invisible, ils font un ta'wil. Ils commentent ces ayats qui parlent de l'invisible, mais ils changent carrément la forme du ayat pour concrétiser la chose. Leur objectif, c'est quoi? Qu'il n'y ait plus rien qui a trait à l'invisible dans le Coran ou dans la Sunna. Et le but, c'est quoi? Que cette religion devienne une religion concrète, accessible à n'importe quelle personne. Et pour cela, ils veulent qu'il n'y ait rien qui ait trait à l'invisible. Ça, c'est une grande erreur, parce qu'ils essaient d'effacer Al-Iman ou Bil-Ghaib. Et en même temps, ils sont en train de changer les commentaires du Coran et les commentaires des Hadiths. Alors, par exemple, juste pour citer un exemple, lorsque Allah Ta'ala dit « Wa arsala alayhim tayran ababil » dans l'histoire de les éléphants. Vous connaissez l'histoire d'Abraha qui voulait détruire la Kaaba, et Allah Azza wa Jalla a envoyé une armée d'oiseaux. Chaque oiseau avait une pierre dans chaque serre, donc deux pierres dans les pattes et une pierre dans le bec. Sur chaque pierre était écrit le nom de la personne à qui cette pierre était destinée. Et Ibn Kathir raconte dans les hadiths que lorsque la pierre touchait une personne, cela le transperçait de la tête pour ressortir dans la position inférieure de son corps. Ça, c'est les commentaires des hadiths. Alors, ces personnes, ils ne veulent pas de ce genre de hadiths. Ils se disent comment une armée d'oiseaux peut-elle combattre une armée d'êtres humains avec des pierres, cela fait grabuche. Donc on va essayer d'interpréter cela d'une autre manière. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Al-Ababi, ce n'était pas des oiseaux, c'était Al-Jurthum. Al-Jurthum, c'était quoi? C'était des microbes. Allah a envoyé une bactérie où il y a eu un virus qui a anéanti l'armée d'Abraha. Et c'est, ça fait partie de la tafsir. C'est-à-dire éradiquer tout ce qui a trait à l'invisible. Alors parmi les commentaires un peu loufoques, hein, parce que ma expression qu'il y a eu sur les signes de Qiyamah, lorsque la télé est apparue, je ne sais pas ça date de combien d'années, 50 ou 60 ans, certaines personnes se sont aventurées à dire que c'est lui Ad-Dajjal. Parce que dans les hadiths, on décrit que Dajjal a un œil. Il dit que la télé, c'est comme si ça a un œil. Et c'est un écran, donc c'est un œil. On dit que Dajjal va entrer dans tous les pays, dans tous les villages, dans toutes les contrées. Il n'y a pas un endroit où Dajjal ne passera pas, à l'exception de Makkah al-Mukarrama et Madina al-Munawwara. Même la Réunion, que ce soit Mafal, Silas, n'importe quel endroit. Alors ils se sont dit que de nos jours, dans n'importe quelle contrée du monde, ville ou village, mégapole ou autre chose, on trouve la télé. Donc l'antenne, c'est Dajjal véritablement. La télé, l'œil de Dajjal. Il faut un ta'wil, un commentaire vraiment lointain, vraiment très 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 loin de ce que Passa m'a dit. Il dit que Dajjal a un œil, la télé c'est un écran. Il dit que Dajjal va entrer dans n'importe quel pays du monde. Ben, véritablement, la télé est entrée dans toutes les maisons et le signe, c'est ce raya, ce drapeau, c'est l'antenne. Donc, il y a eu ce commentaire. Il y a eu également, il y a eu une époque, il y a peut-être une dizaine d'années, il y a eu un ministre qui était à la tête d'un pays dont on ne citera pas le nom, et ce ministre était borgne. Il avait un œil, normal, il avait un œil qui était un peu fermé. Et subhanallah, c'est à peu près comme les descriptions de l'œil de Dajjal. L'œil de Dajjal, c'est un œil en état, qui est en parfait état, sauf que cet œil est barré, c'est-à-dire l'orbite sort un peu de l'œil. C'est un œil qui sort un peu de son orbite et qui est brillant. Tandis que l'autre œil, il n'est pas cyclope déjà, ce n'est pas un œil au milieu du front, non. L'autre œil est fermé, il y a une couche de peau qui referme l'œil. Ça, c'est la description de Dajjal. Et apparemment, ce n'est pas de ma génération, mais on a entendu ça, apparemment ce ministre, qui était à la tête d'un pays très connu, il avait exactement cette description. Donc on a dit que c'est Dajjal. Mais on ne peut pas affirmer que ce ministre est Dajjal, parce que Dajjal ne peut pas venir sans qu'il y ait Imam Mehdi. Et en même temps que Dajjal est là, Isa al-Islam descend quelques temps après. Donc c'est pour qu'il n'y ait pas de telles interprétations qu'il est important de connaître avec précision les signes de Qiyamah. Alors concernant chaque branche de la foi, il nous reste 10 minutes, Inch'Allah, concernant chaque branche de la foi, que ce soit la foi en Allah, aux anges, aux jours de la résurrection, les livres, etc., al-Rusul, il y a ce qu'on appelle al-ilm al-wajib et al-ilm al-mustahab. Il y a ce que chaque musulman se doit de connaître concernant Allah, concernant les anges, concernant les livres qui ont été révélés, concernant les prophètes et concernant la résurrection. En ce qui concerne les ashrat al-sa'a, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir la certitude que ce dunya est fanim, qu'un jour Allah Ta'ala va détruire ce dunya et qu'avant la destruction de ce dunya, il y aura certains signes. Et parmi ces signes, la venue d'Imam Mehdi, la venue de Dajjal, la venue de Isa al-Islam, c'est de l'Etatib, et la venue de Gog et Magog. Et si une personne dit « je ne crois pas en Gog et Magog », cette personne n'a pas le véritable iman, parce qu'il est en train de réfuter quelque chose qui est annoncé dans le Coran. Si quelqu'un dit « je ne crois pas au retour de Isa al-Islam », cette personne n'a pas iman, car le retour de Isa al-Islam est annoncé dans le Coran. Les hadiths, on ne compte plus, mais là on parle du Coran, voyez. Ça c'est le « ilm al-wajib », avoir conscience que ces événements vont avoir lieu. Maintenant, quand vont-ils avoir lieu? De quelle manière? Combien de temps? Quelles seront les conséquences? C'est ce qu'on appelle al-ilm al-mustahab. C'est connaître ces choses avec tafsil, avec précision. Ben c'est ça le but de ce genre de majlis, de connaître avec précision ces choses. Alors, il ne faut pas se dire qu'on connaît déjà ce sujet et on va écouter un peu qu'est-ce que Mawlana peut nous apporter en plus. Mais il suffit qu'on pose une question. Est-ce que parmi nous, il y a une personne qui a entendu ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que avant le Qiyamah, il y aura un feu qui va illuminer tout le désert du Hijaz. Est-ce que nous-mêmes nous avons connaissance de ça? Si on a connaissance de ça, ben alhamdoulilah, c'est qu'on a pas mal de ilm. Mais si on ne connaît pas qu'un jour il y aura un feu, ou alors ce jour est déjà passé, un feu ajib qui va illuminer tout le Hijaz qui sera visible de Madina Munawwara jusqu'à des milliers de kilomètres, si on n'a pas connaissance de ça, ça veut dire que notre iman bil yawm al akhir n'est pas complet. L'iman bil tafsil, l'iman avec précision. Également, si je pose une question, est-ce que on a entendu parler d'un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wasalam a dit qu'avant le Qiyamah, la péninsule arabe redeviendra verdoyante? La péninsule arabe redeviendra verdoyante. Et cela n'a strictement rien à voir, comme on l'avait déjà dit à plusieurs reprises, avec ce qu'on voit lorsqu'on fait le trajet Makkah-Madina en bus, on voit qu'ils ont commencé à planter, à mettre des cèdres, à arroser un peu dans le désert. Il y a quelques cultures. Cela n'a rien à voir avec ce que le prophète a annoncé. Le prophète a bien dit que la péninsule arabe redeviendra verdoyante, il y aura des fleuves qui vont couler. Si on a connaissance de cet événement, alhamdoulilah. Autrement, ça veut dire qu'on a encore approfondi sur le sujet. Également, le prophète a annoncé qu'avant le Qiyamah, l'Euphrate, ce fleuve de l'Euphrate qui, si je ne me trompe pas, est en Iran, ou alors en Irak, voyez, ce qui reste de l'Irak, hein, et l'Euphrate qui est en Irak, hein, de ce fleuve va émerger une montagne d'or. Alors si on connaît que, alors là il y a divergence, certaines personnes disent que la montagne d'or c'est un majaz, comment appeler, c'est une métaphore. La montagne d'or c'est le pétrole. Effectivement il y a eu du pétrole. Mais si on analyse les hadiths, le prophète a dit que les gens vont se battre, les gens vont s'entretuer, sans parler de cette richesse, ils vont prendre morceau par morceau. Et lorsqu'on dit morceau, on ne peut pas prendre le pétrole, un morceau de pétrole. D'ailleurs, le pétrole n'a jamais été exploité par des individus. C'était des sociétés ou le pays qui exploitait le pétrole. Donc, ce genre de tafsir est loin. Right? Donc, connaître ce genre de choses, cela complète notre foi en ce qui concerne les signes de Qiyamah. Concernant les grands signes de Qiyamah, je pose une question, est-ce que Dajjal est déjà né? La réponse est oui. Est-ce qu'Imam Mehdi est déjà né? Ça, personne n'est capable de dire. Est-ce que Dajjal est là? Ça, oui, on a yaqim dessus. Les Sahaba l'ont vu et ils l'ont rapporté. Donc, c'est intéressant de savoir où est-ce qu'ils l'ont vu, à quelle époque et quelle était la description. Également, si on pose une question, est-ce que Ya'juj et Ma'juj existent déjà? Si on se dit que ce n'est pas possible, il n'y a pas un être vivant qui n'a pas déjà été détecté par les satellites. On ne peut pas dire que Dajjal existe sur une île alors que toutes les îles du globe ont été visitées. On ne peut pas dire qu'entre des montagnes, il y a des millions de gens qui habitent alors que cela se saurait. Ben non, il faut savoir qu'ils existent déjà et connaître avec précision ces choses-là, ça c'est al-ilm al-mustahab, la connaissance qui est qui n'est pas obligatoire mais qui est souhaitable pour chaque musulman car cela renforce le iman bil ghaib. On finira avec ces dernières paroles. Il faut comprendre que Allah Azza wa Jal a une manière d'agir dans chaque chose, qu'on appelle sunnatullah. Et Allah Ta'ala ne change pas sa manière d'agir. En ce qui concerne la création, Allah Ta'ala a décrété qu'aucun être vivant ne vivra éternellement. Vous connaissez ça, c'est clair. Également, en ce qui concerne les cités, les populations, Allah Ta'ala dit « Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas ». Les ulama disent que, en ce sens, hein, que Allah Ta'ala, parfois, il peut donner le pouvoir, la notoriété, la supériorité à une communauté, à un pays, mais à un moment donné, après quelques siècles, à quelques générations, Allah Azza wa Jal va affaiblir cette communauté et le pouvoir passera à d'autres pays. Vous connaissez qu'à l'époque du Prophète sallam, le roi de Al-Najashi, il était à la tête d'un empire extrêmement puissant. Alors qu'aujourd'hui, que vaut l'Éthiopie? L'Éthiopie est devenue un pays pauvre. Il y a encore quelques années, les gens mouraient de faim. Alors qu'à l'époque du Prophète sallam, c'était un pays très puissant, il y avait à sa tête Al-Najashi. On connaît également qu'à l'époque du Prophète sallam, et là ça dépend dans l'islam, les forces émergentes c'était les Romains, les Grecs et les Faris. Les Faris c'est du côté de l'Iran et un peu du côté de la Russie. Maintenant les Faris, c'est plus ce qu'ils étaient avant. Les Romains également, à Rome, quand on parle de Rome, également on connaît la décadence des Grecs, etc. Donc Allah Ta'ala il fait passer le pouvoir d'une communauté à l'autre. Et ça c'est la sunnah d'Allah. Ça c'est le concert. On a vu les êtres vivants, on a vu ce qui concerne les populations, également les constructions, tout ce qui existe sur la terre, Allah Ta'ala dit le Coran, kullu man 'alayha fan. Rien ne va durer, tout est voué à être détruit. Et on finira avec ça, comme Allah Azza wa Jal a observé un tartib, ben ça c'est compliqué, Allah Ta'ala a observé un tartib, une méthode en ce qui concerne la création de l'humanité. Bat'ul khalq, comme on appelle le début de l'humanité. Allah Ta'ala, quand on parle de l'humanité, l'humanité c'est pas le terme, le début de la création. Vous voyez? On sait qu'au début, Allah Ta'ala était unique. Wa kana 'arshuhu 'ala al-ma. Et le arche d'Allah était sur l'eau. Il n'y avait aucune créature, il n'y avait que le khaliq. Allah Ta'ala a décidé de créer al-qalam, qui écrit le taqdir. Allah Ta'ala a créé son arche. Allah Ta'ala, parmi les créatures maintenant, les créatures vivantes, Allah Ta'ala a créé d'abord les anges. Ensuite, Allah Ta'ala a créé les djinns. Et longtemps après, Allah Ta'ala a créé la race humaine. Donc Allah Ta'ala a observé un tartib, une méthodologie, on peut dire, dans le début de la création. également dans la destruction de cette humanité qui, jusqu'au Qiyamah, Allah seul sait combien de temps va durer, combien de millions ou combien de milliards d'années, Allah Ta'ala a décidé qu'il y a un tertib. Ce n'est pas que le Qiyamah ait lieu en une fraction de seconde et tous ceux qui sont sur la terre vont mourir du jour au lendemain. Non. Allah Ta'ala a décidé qu'il y ait une dégradation de l'humanité, et c'est exactement ça les achats de Sa'asura. Les petits signes de Qiyamah, c'est une dégradation dans les relations entre les pays. On ne va pas tout citer parce qu'on aura l'impression de parler de politique, mais le Prophète a annoncé qu'il y aurait des guerres entre telle et telle communauté. La plupart de ce que le Prophète a annoncé s'est déjà produit. Par exemple, avec les Atraq, avec les Roum, etc., etc. Le Prophète a annoncé. Donc, une dégradation des relations entre les communautés, entre les peuples. Également, le Prophète a annoncé qu'avant le Qiyamah, il y aura beaucoup de sectes. Ça aussi, ça s'est produit. Également, la propagation des péchés. Également un changement dans les mœurs, dans les habitudes, dans les relations entre les gens. Également en ce qui concerne le temps. Il y aura de moins en moins de baraka, de moins en moins de bénédictions dans le temps. C'est la remarque qu'on fait. Il n'y a plus de baraka dans le temps. Ça fait partie des petits signes de Qiyamah. Également dans le temps, notre sens du temps, al-jaw, dans les phénomènes naturels. Notre prophète, alayhi salatu wa salam, a également annoncé qu'il y aura certaines perturbations dans le climat et dans les phénomènes, ce qu'on appelle aujourd'hui météorologiques. Et cela ne sont pas des phénomènes naturels, mais des signes de Qiyamah. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Mais le changement climatique, ce n'est pas que la fonte des glaciers, c'est également, Wallahu a'lam, ça c'est mon opinion, mais lorsqu'on parle de changement climatique, il faudra s'attendre un jour à ce que la péninsule arabe redevienne Anhar, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a annoncé. Également, une dégradation de la connaissance religieuse. Et même si, jusqu'au Qiyamah, il y aura des alims, ce ne seront plus des bons alims. Hadith, je le dis, c'est ma confession, le Prophète m'a dit qu'il viendra une époque où les pires des gens, ce seront les ulama. Où les pires des gens, ce seront ceux qui ont la connaissance, mais ils n'utilisent pas cette connaissance dans le bon sens, à leur fin personnelle ou avec un manque de sincérité extraordinaire. Également, une dégradation concernant le Coran, parmi les petits signes de Qiyamah, qu'il y aura une grande maîtrise du Coran, mais pas d'amal. Dans certains riwayats, il est même dit qu'il y aura Mubalara fi tajwid, qu'il y aura des gens qui vont faire tellement de tarassous, qui vont tellement donner d'importance au tajwid, à la prononciation, mais ce seront des queues vides. Des gens qui vont s'adonner au tajwid, sans pour autant dire que ce n'est pas quelque chose de louable, non. Mais il n'y aura plus de fond, une lecture apparente du Coran sans compréhension du sens. Et là, on est en plein dedans. La question qu'on se pose, on peut s'interpeller. Combien de personnes parmi nous lisent sur les Yassine tous les matins sans comprendre qu'est-ce qu'il dit? Combien de personnes font un salat depuis 30 ans derrière l'imam sans savoir qu'est-ce que Moana dit, l'imam Sab dit dans Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Qu'est-ce que l'imam Sab dit? Allez, on va aller un peu plus loin dans Al-Hakum al-Takathur, dans Ida Zulizatil Ardu Zizalaha. Mais imaginez si on ne comprend pas notre livre. Si on ne comprend pas qu'est-ce que Allah Ta'ala nous dit dans son Coran, dans lequel il s'adresse aux musulmans. Au Prophète, à tous les musulmans jusqu'au Qiyamah. Mais quelle compréhension nous allons avoir, quelle clairvoyance allons-nous avoir sur ce dîme, sur notre religion, si on ne comprend pas le sens du Coran? Le sens également, l'essence du Coran. Donc ça fait partie des petits signes de Qiyamah, dégradation dans la maîtrise du Coran. Peut-être une maîtrise apparente, il n'y a jamais autant de hufa de le Coran à notre époque qu'avant. Mais il n'y a pas d'amal, bien sûr, et surtout pas de compréhension. Également, une dégradation dans les akhlaq, dans les comportements des gens. On sait qu'avant le Qiyamah, ça sera vraiment juste avant que Allah détruit le dunya. Mais ça, là je me trompe, ça ne fait plus partie des signes de Qiyamah. Ça, c'est les dernières actions que le Prophète a décrites avant qu'il y ait ce qu'on appelle « Ya yunas taqou rabbakum inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim » avant la destruction finale du dunya. Lorsqu'il n'y aura plus un musulman pour dire « Allah, Allah », le akhlaq, la manière de vivre, le urf et l'akhlaq sera telle que les gens vont avoir des relations intimes dans la rue, comme le Prophète décrit, comme des animaux. Il n'y aura plus de haya. Les gens, aujourd'hui, la haya, est-ce que c'est un thème qui existe encore? Également, dégradation de la condition de la femme. Et tous ces petits signes de Qiyamah, nous en tant que musulmans, nous comprenons que ce sont là les signes que notre prophète alayhi salatu wassalam a annoncés. Mais les personnes qui n'ont pas iman, ils disent que c'est un changement dans les mentalités, que les mœurs ont changé maintenant, on a une autre vision des choses, et donc ils finissent par considérer ces changements comme étant des choses normaux. Et on va finir avec ça. Mais jusqu'à maintenant, concernant les petits signes, une personne peut dire que ça fait partie de la nouvelle génération, d'être approche des choses. Mais viendra une époque où il y aura une rencontre entre les choses concrètes et les choses invisibles. On aurait aimé développer plus ça, Inch'Allah, on va garder pour la prochaine fois. Plus on avance dans le temps, plus il est difficile de croire à l'invisible. Plus on fait des progrès. point de vue de la science, de la technologie, etc., plus nous nous basons sur un raisonnement cartésien, rationaliste, il faut voir une chose pour le croire, ou alors, vous êtes vraiment l'esprit cartésien le plus pur qu'il y a dans le monde occidental, plus on avance dans le temps, plus il est dur de croire en tout ce qui concerne l'invisible. Mais viendra une époque où l'invisible va rentrer de plein fouet dans notre monde. Alors là, il n'y aura plus de réponse, plus de scientifiques, plus de philosophes, plus de penseurs, ils n'auront plus qu'à accepter. Mais Inch'Allah, à travers les différents durous, ces différents programmes qu'on va faire, on va se rendre compte que certainement Imam Mahdi va venir, certainement Dajjal va venir, mais il y a beaucoup de signes dans les hadiths qui prouvent qu'il n'y aura plus de communication possible entre les peuples. Si Dajjal est apparu dans un endroit, il suffit que je surfe sur un site islamique ou non, ou alors un site d'actualité, on dit qu'une personne prétend avoir des pouvoirs, il fait telle telle chose, donc on dit peut-être c'est Dajjal, on demande le fatwa, on demande les alim, ils expliquent que Dajjal est comme ci, comme ça. Mais pas mal de hadiths, on verra au fur et à mesure, certains alfaz, certaines paroles prononcées par le prophète nous fait bien comprendre que la mobilité des gens, lorsqu'il y aura Imam Mahdi et Dajjal, reviendra comme avant. Le prophète parle de personnes qui vont combattre Dajjal ou voir Dajjal à dos de chevaux, ce seront des cavaliers. Et le prophète va dire que ce seront les meilleurs cavaliers de l'époque, de cette époque future. Donc cet signe nous fait comprendre que certainement, à l'arrivée de ces grands signes, pas les petits signes, à l'arrivée des grands signes de Qiyamah, certainement, notre mode de vie va changer. Il n'y aura plus, peut-être, certains s'avancent même à dire qu'il n'y aura peut-être plus de matière première, il n'y aura plus d'électricité ou autre chose, on ne sait pas. À travers les hadiths, on va voir est-ce qu'il y a des signes indicateurs sur le fait qu'à la venue de Dajjal, il n'y aura plus possibilité de communiquer ou de fuir un pays. Parce que pour fuir un pays, il faut avoir un avion. Peut-être que ces choses-là ne seront plus disponibles. Donc, Inch'Allah, on va commencer par les petits signes de Qiyamah. En général, les gens ils préfèrent les grands signes, comment dire par Imam Mahdi, mais il est important de traiter un peu des petits signes pour qu'on comprenne que jusqu'à l'arrivée du dernier petit signe, dans quel degré de fitna sera la Ummah. Et que le fitna que nous vivons, les problèmes que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas encore les fitna annoncés par le Prophète sallam. Avant que Imam Mahdi, c'est le premier grand signe de Qiyamah, avant que Imam Mahdi n'arrive, lorsque Imam Mahdi arrive, c'est pour tirer la communauté, pour tirer les musulmans d'une situation vraiment terrible. Où une personne dit que je suis musulman, le hadith, une personne dit que je suis musulman, yuqtal. Une personne dit qu'il a imam, que cette personne est exécutée immédiatement. Ça, c'est le degré de fitna. Donc, pourquoi on va voir les petits signes, pour qu'on comprenne quelle sera la dégradation de la pratique de la religion et quel degré de fitna on va atteindre avant l'arrivée des grands signes de Qiyamah et principalement avant l'arrivée de l'imam. Et donc, Allah Ta'ala nous donne istiqamah. Ça, c'est le plus important. Qu'Allah Ta'ala donne istiqamah, la possibilité d'écouter avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'ikhlas, et Inch'Allah, la semaine prochaine, Moutissab va faire un programme sur tafsir, et dans deux semaines, on va commencer par les petits signes des Qiyamah, et il y a différentes applis, il y a différentes manières d'aborder les petits signes de Qiyamah, mais on va avancer avec ce tafsir, Inch'Allah, en parlant des trois catégories de petits signes de Qiyamah, les signes qui se sont déjà produits, premièrement. Deuxième catégorie, les signes qui sont mustamis, c'est-à-dire les signes qui ont eu lieu, mais qui se perpétuent, qui continuent jusqu'au Qiyamah. Et troisième et la plus intéressante, les petits signes de Qiyamah qui n'ont pas encore eu lieu. Qu'à la fin de tawfiq de comprendre, de faire un mal, de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhanallah, Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alameen.